Les rendez-vous avec Alexandra. Jacqueline Hirsch, présidente de l'association Alexandra David-Nel. C'est tout de suite.
Alexandra David-Nel, à Fouryongden, les serviteurs, les mules, continuent d'avancer. Parfois, il y a des étapes de 60 km par jour et par de bien mauvais chemins. La plus grande partie de ces sentiers, surplombant ou côtoyant la rivière, avait été bâtie en pierre. Mais, note Alexandra, la décrépitude et la ruine règnent partout en Chine. On grimpe maintenant sur des décombres branlants. Et ce qui est pire que de grimper, on doit redescendre de même. Les auberges sont rares, camper est impossible et la saleté des villages est impossible à décrire. En juin 1921, il s'arrête donc dans un gros village du Sichuan, habité par ce qu'on appelle en tibétain des Rjiagompa, c'est-à-dire des populations d'origine tibétaine établies là depuis des siècles dans les vallées Rong, chinoises Jia, donc Jia Rong Pa. Et dans une lettre à Philippe, elle raconte leur péripétie. Nous devions traverser deux rivières à leur confluent, chacune d'elles large comme la Seine au pont d'Orsay, sur des ponts de bambou et de cordes tressées. Imagine, quatre cordes soutenant des planches jetées dessus sans être attachées et ne se joignant point. Des deux côtés, en guise de parapet, quatre ou cinq autres cordes servant aussi de suspension. Avec une telle largeur, tu peux comprendre le balancement qui se produit. Nous avons dû décharger les mules, passer les bagages à dos d'homme. Ceci s'est effectué sans encombre. Mais passer les bêtes a été une autre affaire. La seconde est tombée entre les planches écartées, s'est relevée, est retombée encore, tant que ses quatre pieds se sont trouvés pendants et que son corps commençait à s'affaisser entre les cordes. Je l'ai cru perdu. J'ai fait en hâte quérir 10 hommes qui ont d'abord marchandé le prix à leur payer et enfin, en passant des courroies sous le ventre de la bête, l'ont retiré sans rien de casser et amené en terre ferme. Ils ont ensuite passé les autres mules. Nous avons continué notre voyage et sommes arrivés à la nuit dans un village où j'ai eu le grand ennui de constater que mon revolver n'était plus dans la sacoche de ma selle. A-t-il été volé ? Est-il tombé soit dans le passage de ces ponts branlants, soit en traversant la route sous l'avalanche ? Je ne sais. Il importe peu, mais le résultat est le même et il est fort regrettable. Une petite arme à 5 coups, bien en main, mettait une certaine sécurité. M'en voici privée. Je ne crois pas que nous ne soyons jamais attaqués, mais il est bon de montrer des armes. Cela tient les maraudeurs en respect et nous allons précisément avoir à traverser la partie la plus hantée de notre route. Mais rien à faire qu'à se fier une fois de plus à sa bonne étoile. Ce soir-là, les bêtes ne pouvaient plus continuer leur route. Les charger eût été d'une cruauté impardonnable. Il a fallu s'arrêter et panser leurs plaies. Les jours et les semaines passent. Des péripéties s'accumulent, comme traverser encore d'autres rivières, rencontrer des fonctionnaires pointilleux qui veulent les emprisonner, corriger les porteurs. La fièvre aussi, parfois, qui leur fait passer des nuits sans sommeil. Une halte de repos de quelques jours s'imposait pour reprendre des forces et ce fut, début juillet, une halte chez l'abbé Charrier à la mission de Tsinkaïtze, aujourd'hui Xia Ojin. C'est des missions étrangères de Paris. Il est étrange cet homme qui vient causer avec Alexandra tous les après-midi. Voici comme elle le décrit. La Bécharrier est une obligeance extrême. Pas bigot du tout, car il a de nombreux amis parmi les protestants des environs et parmi les lamas aussi. Et là, chez cet abbé, cette mention étonnante d'Alexandra qui raconte dans sa lettre de Philippe les potins des revues françaises. J'ai parcouru ici une douzaine de revues illustrées françaises. J'y ai vu et revu Millerand, Foch et Tutti Quanti, avec des dames telles que Madame Philippe Berthelot en robe si courte qu'on lui voit les mollets. Et tout ce monde festoie, roucoule, pérore. J'ai l'impression de contempler les pensionnaires d'un asile d'aliénés. Sur la scène, piaffent des femmes qui sont de mon âge ou mes aînés, des gens avec qui j'ai le jouet. Je me regarde dans mon petit miroir et ma stupéfaction est telle que je ne ris même pas en pensant que celles-là, qui doivent me ressembler, figurent des ingénues ou les héroïnes de drames d'amour tumultueux. Mademoiselle Cécile Sorel, dont les printemps ne se comptent plus, en fait, elle a 48 ans et Alexandra en a 53. Elle est toujours une reine du monde où l'on s'amuse. Paris est un étrange pays. Mais je me dis que si ces juvéniles quadragénaires et quinquagénaires devaient se trouver ici, enfourcher ma grande mule ou franchir à pied monts et vallons en Asie centrale, ce serait peut-être à mon tour de paraître la moins décrépite. Cela ne fait même aucun doute. Sarah l'Éternelle vient de recevoir la rosette de la Légion d'honneur. Alors, Cécile Sorel, c'est une comédienne qui est effectivement la star de la Belle Époque. Comtesse de Ségur par son mariage, elle côtoie les plus grandes personnalités de son temps, au nombre desquelles Clémenceau, Rostand, Guitry. Reine des planches, ses apparitions publiques, le plus souvent dans des costumes extravagants, font à cette époque évidemment sensation. Cela touche Alexandra, car souvenez-vous, elle fut elle aussi femme de théâtre en tant que cantatrice. Généralement, son jugement sur les actrices ou même sur les danseuses est assez dur, voire même féroce. Ainsi, quelques mois auparavant, Alexandra avait lu un article dans un journal envoyé par Philippe à propos de Sarah Bernhardt. Je la cite. « Parmi les noms des étoiles fêtées, je relève celui de femmes qui étaient au théâtre avant moi, ce qui ne leur confère pas un brevet de jeunesse. Mais quoi, notre immortelle Sarah, qui doit marcher vers les 80 ans et possède une jambe de bois, ne continue-t-elle pas à paraître sur la scène? Et Isaura Duncan, qui pèse, dit un journal anglais, ses 80 kilos, continue à flotter et à émuler les sylphides tous les soirs à Marigny ou ailleurs. » Spectacle plutôt attristant que cela. Mais revenons au Tibet, dans ces paysages incroyables où Alexandra chemine par tous les temps et souvent avec beaucoup de mésaventures. Elle quitte donc la mission après cette halte salutaire de 12 jours et se remet en route pour visiter tout le pays tibétain, inclus dans le nord-ouest du Sichuan. 17 juillet 1921. À l'aube, réveil, repas frugal, les provisions de route sont presque épuisées. Départ, eau sur la route, pataugeage, nous y sommes faits. Puis une brèche, la route effondrée contre des rochers verticaux et la rivière battant ceci de ses remous. Rien à faire. Mais il y a presque toujours tout de même quelque chose à faire. Un homme s'est noyé là la veille avec son cheval. Cette fois, c'est contourner une montagne, en gravir une autre, redescendre vers la rivière, une promenade de 25 km pour passer une brèche qui mesure moins de 10 mètres. Et nous voilà escaladant la montagne, à pied naturellement, par une température très chaude, un soleil brûlant, précurseur d'orage, qui me transperce le cerveau. Ensuite, une longue route, la nuit venue, et les hommes exténués s'affalant entre les tombes dans un cimetière, tandis qu'Afour dresse ma tente sur une hauteur voisine.
Les rendez-vous avec Alexandra. Jacqueline Hirsch, présidente de l'association Alexandra David-Nel. C'est tout de suite.
Au matin suivant, m'attend une étrange aventure. Mes trois serviteurs, pris de je ne sais quelle panique, jettent leurs effets, les vêtements que je leur avais donnés, déclarent qu'ils s'en vont et se sauvent comme trois fous, l'un d'eux pleurant à chaudes larmes. Les voilà partis. La scène a pris 10 minutes. Je suis un peu baba. Tous nos sacs sont déballés, nous avons 8 mules à conduire. Mais Afour ne s'émeut pas. « Nous nous en tirerons, » dit-il. Et il emballe tout, tandis que j'envoie mon muletier quérir des hommes pour conduire nos bêtes. Il en trouve tout de suite 3. En route. Barbotage comme de coutume, mais l'eau a quand même beaucoup baissé. Mais le soir, les 3 fugitifs sont revenus. Se sont accroupis dans un coin sans rien dire, comme des chiens qui attendent le fouet. Je sais très bien que c'est l'homme de Lhassa qui a monté la tête aux jeunes gens. La série d'accidents qui nous sont arrivés l'a jeté hors de son bon sens. Toutefois, à la fin de son récit, Alexandra écrit à Philippe « Je continue à très bien me porter. La lassitude que je ressentais en quittant Kumboum et les douleurs rhumatismales ont disparu. Je trotte presque allègrement comme mes garçons et fais autant de chemin qu'eux. Nous avons encore devant nous une semaine de mauvaise route, à peu près 200 km, et un col d'environ 5000 mètres d'altitude à franchir, avant d'arriver à la steppe herbeuse et très montagneuse à Tavo. Les montagnes de la steppe sont rondes et aisées à gravir, largement espacées, avec des plateaux immenses et de larges vallées entre elles. Les rivières y circulent à l'aise, et les voyageurs aussi. Quelques jours après, une longue étape nous mène à Wadjo, un village où nous réquisitionnons ce que nous pouvons de beurre, de lait, de farine. La pluie tombe à torrents durant toute la nuit. Le matin, la rivière est démesurément grossie. Nous ne pouvons songer à nous enfiler dans la vallée. Le sentier doit être sous 1 mètre d'eau en maints endroits. Donc, nous restons là un jour. On envoie une corvée en avant pour voir l'état du chemin et réparer un peu les endroits qui peuvent en avoir besoin. Le lendemain, longue étape par un sentier peu commode, barbotage successif, puis arrivé en face du monastère de Tesmon, un petit monastère appartenant aux bons postes, les chamanistes pré-bouddhistes du Tibet. Mais pour le moment, il émerge tandis que quelques autres font la chaîne pour soutenir le groupe qui passe. Mais ces gens sont intelligents. Ils s'installent au-dessus de ceux qui traversent au lieu de se placer en dessous du courant, de sorte que si un colis ou un homme était entraîné, il n'y aurait aucune chance de la rattraper. Quand on a déambulé comme je l'ai fait en pays primitif, on sait regarder ces choses avec philosophie. C'est ce que je fais du haut de ma mule en attendant mon tour de passer. Au monastère, un trappe me cède sa cellule. Je reste seule, trempée jusqu'aux os par la pluie et les baignades successives en cours de route. Mon imperméable est depuis longtemps transpercé. J'accroche tous mes effets au bâton, bois du thé, mange quelque chose de froid emporté le matin, fais mon lit et me couche non sans avoir l'indiscrétion d'entrouvrir l'armoire au torma du trappa pour voir ce qu'un bon pot pouvait y cacher. Alors cette armoire, parfois dissimulée dans un recoin, parfois trônant au milieu de l'hôtel domestique, soigneusement cadenassée ou scellée, est peut-être d'origine bon pot, mais tous les lamas tibétains l'ont adoptée en y associant des idées empruntées au tantrisme hindou. Je me bornerai à te dire que ces armoires sont liées à des pratiques tendant à s'assurer les services de certaines divinités et en général à une sorte de sorcellerie d'un ordre assez bas, dans la majeure partie des cas. Les tormas représentent les divinités, sont des petits cônes faits en farine. Devant elles se placent les offrandes, toujours d'un caractère sanglant, viande, sang, souvent aussi de l'alcool et d'autres substances secrètes. Une fois consacrés, les tormas doivent être vus par personne d'autre que par celui pour l'usage duquel elles ont été construites. C'est avec de grandes difficultés que j'ai été admise à jeter un coup d'œil dans l'intérieur de quelques-uns de ces sanctuaires diaboliques chez différents lamas. Mais le vulgaire qui imite ceci est loin de comprendre la signification de ces rites. Et les armoires, bien que toujours fermées, n'ont ni cadenas ni scellés et restent à la merci du curieux laissé dans la chambre. La boîte à secrets de mon hôte contient 10 tsatsas, des petits édifices funéraires construits avec des os pilés d'un défunt et de la terre glaise, sans doute commémorant la mémoire de 10 sages des bons postes. Et comme offrande, il y a un tas poussiéreux d'os de côtelettes qui, par leur forme, m'ont paru provenir de porc. Rien de plus. Oh, c'était sans intérêt. Et je me glisse dans mon lit, au pied des tsatsas et des os de côtelettes, et je dormis, ma foi, paisiblement. Pendant des jours, ils vont marcher sous les ondées, monter, descendre à travers la forêt. Malgré une violente crise d'entérite qu'elle traite par un jeûne rigoureux, un régime peu réconfortant pour gravir un col de 5000 mètres. Le col n'a pas la grandeur sauvage de celui du Dza. La saison est plus avancée. Nous le trouvons libre de neige, mais non loin sur notre droite, son dépêchant neigeux qui probablement ne fonde jamais entièrement. Descend à pied dans les rocailles, puis de nouveau des forêts sans fin. Alors les étapes se font chez l'habitant, mais souvent les paysans sont plus des bandits que des cultivateurs. Les provisions s'amenuisent et les conditions demeurent difficiles, la pluie, les torrents dangereux à traverser, la fièvre, les rhumatismes. Enfin, le 17 septembre 1921, après 8 mois de déambulation, Alexandra arrive à Giacando. Elle décrit à Philippe que sa santé est bonne, à part des troubles de nature urticaire, mais la crise d'entérocolite qu'elle a soignée en avalant des quantités de lait caillé, et elle n'est pas fatiguée. « Je ne suis pas fatiguée, au contraire. L'entraînement a fait son œuvre et je chevauche des journées entières sans en éprouver la lassitude qui me faisait craindre, au début de mon voyage, de voir mes forces au-dessous de ce que je demandais d'elles. » Puis Alexandra décrit la province tibétaine du Kham. Cette riche contrée, ne ressemblant en rien aux majestueuses mais improductives régions qui avoisinent l'Himalaya. Les champs d'orge, de blé, d'avoine sont superbes. Les montagnes pourraient être couvertes de forêts de sapins si on n'avait pas coupé tous les arbres sans jamais reboiser. Il y a même de la place pour des millions de yaks et de moutons, là où l'on en place à peine quelques milliers. Toutes sortes d'industries, beurre et lait de conserve, commerce de laine et de cuir pourraient se développer et trouver un débouché aisé soit à Haiphong, en Indochine, soit dans les ports du sud de la Chine, si l'on construisait des routes et des chemins de fer. Cependant, Alexandra n'a pas choisi d'être là. Elle écrit son désarroi le 17 septembre 1921 à Philippe. « Mon très cher, Figaro dit... Il faut se hâter de rire de tout, de peur d'en pleurer. C'est là exactement un mot répondant à merveille à ma situation actuelle. Les événements ont tourné de façon malencontreuse, quelque peu par ma propre faute, et me voici à Giacando, où je n'avais jamais songé à aller et d'où je ne sais comment me tirer. » septembre 1921, lettre à Philippe. Jacquiendo est une grosse bourgade créée pour des besoins militaires et qui n'a aucune raison d'exister si ce n'est d'être un lieu de passage des caravanes de marchands. Imagine un gros pâté de maisons plates, en terre durcie, s'étageant sur un coteau que surmonte un monastère, le tout dans une étroite vallée entre d'arides montagnes. Tout autour, c'est le désert, des steppes immenses et vides, des lacs bleus, des monts rocheux, des rivières murmurantes, seule voix résonnant dans ces solitudes. L'altitude dépasse les 4000 mètres, même les 4500. Je mesure cela par comparaison avec les altitudes voisines connues par la végétation. Comment et pourquoi j'ai échoué là? Effectivement, Alexandra avait franchi la frontière du Tibet intérieur et pénétré dans la région interdite. Après quelques jours, sa caravane est arrêtée et son plan a donc échoué. Elle refuse de faire demi-tour, mais elle est bloquée dans son avancée vers l'ouest et le sud-ouest. Elle est donc obligée de remonter vers le nord et donc à Jacquendo, où elle n'avait pas prévu de se rendre. Encore une tentative qui échoue. Mais en chemin, elle va quand même s'arrêter au célèbre monastère de Dzogchen. Nous trouvons là un infect logement, séparé seulement par un rideau de l'écurie. Afour et moi devons nous y caser, tandis que mes gens, de l'autre côté d'une cloison de branchages et bouses sèches, dorment et cuisinent au milieu de nos bêtes. Il faut pourtant nous arrêter une journée pour visiter les temples, parce que je désire y acheter certains livres, mais les bois à imprimer seuls existent. Il faut donc apporter soi-même le papier et attendre son tour pour imprimer si on veut les ouvrages. Je ne puis le faire. Le grand lama du lieu, un personnage de grand renom et excessivement riche, nous fait appeler et nous offre à dîner dans un appartement privé, plein d'objets précieux, voisinant avec des pots à lait en fer émaillé, des miroirs de bazar et toute une hideuse et vulgaire pâte-cotille. Il nous questionne beaucoup sur le monde, les différents pays, leurs coutumes. Il n'a rien vu et ne sait rien. Mais il est plein d'intérêt. Je lui parle de notre colonie de l'Indochine, pas bien lointaine, et tout de suite il pose des questions de trafiquants sur les relations commerciales qu'il pourrait nouer de ce côté. Au départ, cet homme munificent nous offre 18 briques de thé. Mais cela forme la moitié d'une forte charge de mules. Nous ne pouvons pas transporter ce volumineux présent. Refusons et acceptons seulement les écharpes de soie. Plus tard, dans la soirée, il m'envoie un livre. Afour rend la politesse en envoyant une paire de chaussettes. Suivent encore pas mal de mes aventures avant d'arriver à Jacquendo, où elle restera plusieurs mois coincée par la tente de papier en règle. Toujours en septembre, après le récit de ses malheurs, les brigands, la température, la saleté des lieux, des rencontres désagréables, plus ses rhumatismes, etc., elle s'interroge. Et maintenant quoi? Point d'interrogation immense. Nous allons être en octobre dans quelques jours et l'altitude moyenne environnante étant plus de 4000 mètres, tu devines que l'hiver n'a rien de comparable avec celui de Tunis ou de Beaune. Et il n'y a pas de combustible dans la région, sauf de la bouse de verre, de yak. Il n'y a qu'une seule ville un peu proche, Lhasa. On pourrait à la rigueur s'y rendre en un gros mois, mais après ce qui vient de se passer, il vaut mieux, je crois, ne pas reprendre un trop prompt contact avec les autorités tibétaines. Traverser le Kukunor en cette saison est une entreprise risquée. Je la réussirai probablement tout de même, mais est-il sage, à mon âge, de supporter des nuits à moins 20 degrés et les températures plus basses encore qui vont venir lorsqu'on n'a qu'un camp volant comme abri chaque nuit? Je ne vois guère que l'hivernage possible. La perspective me déplaît. Nul bon gîte n'est à trouver. La nourriture est maigre, misérable et assez coûteuse. Finalement, Alexandra passera donc tout l'hiver à Jacquendo. Il y fait très froid, mais elle y résiste. Et on la retrouve le 22 mai 1922 dans une lettre à Philippe. Le temps qui était beau il y a 2 mois s'est gâté depuis une semaine. Il pleut abondamment à Jacquendo, qui est à la limite de la zone des pluies. À 30 mètres plus haut, il neige, et la vallée est de nouveau entourée d'une ceinture blanche. J'étais restée sous ma tente aux environs du village, mais le mauvais temps m'a fait retourner dans la maison que j'ai occupée l'hiver. J'attends le retour du garçon que j'ai envoyé à Dirji avec 3 mules. Il sera ici, je crois, dans 1 semaine et je partirai aussitôt après. Nous aurons quelques frais d'habits à faire, car nous sommes en haillon, Albert et moi. Albert, elle l'appelle tantôt à four, tantôt Albert. Et moi, cela n'a pas grande importance dans la steppe, mais nous ne pouvons nous montrer ainsi dans des endroits où nous rencontrons des fonctionnaires chinois et des Européens. J'ai heureusement laissé à Sinine une caisse de vieilles robes emportées de Tunis qui vont me revenir fort à point. Mais si peu que l'on fasse, cela entraîne tout de même des frais. Même, je le confesse, je viens de me laisser tenter par le désir de certaines choses dont je suis privée depuis si longtemps. Je commande par ce même courrier 2 livres de café, 2 livres de cacao et 2 livres de thé de Ceylan. Nous avons été tellement privés de tout à Jacquendo, et plus encore durant mes dernières excursions, que ce rien de luxe semblera délice paradisiaque. Je vais bien cependant, mais suis devenue excessivement maigre. Cela n'a pas d'importance, je digère bien. Les rhumatismes et la crise d'entérocolite qui se faisaient sentir quand je suis partie, il y a 2 mois, se sont envolés comme par magie, dès les premiers jours de marche. Maintenant, il faut zigzaguer, retourner sur nos pas. Le périple se triple et se quadruple, et j'ai un intense désir de te revoir, contre lequel il me sera difficile de lutter longtemps encore. Mais l'aventure n'est pas encore terminée. Et voilà déjà 11 années qu'Alexandra a quitté Tunis. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour aborder ses derniers mois, où elle peut écrire à Philippe, lui permettant de suivre son aventure, et cela jusqu'en octobre 1923. Après, son chemin se fera en mendiant, toujours accompagné de son fils, le lama Yongden, pour parvenir à Lhasa en février 1924. Mais n'anticipons pas. À la semaine prochaine pour la suite de la grande aventure d'Alexandra David-Nel.